Amis de Radio Silence, on peut partir comme ça dans la prière matinale, tout en méditant sur le temps. Vous savez, il y a une chanson ici qui dit que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Et c'est un Ivoirien apparemment qui l'a chanté. Et le second nom de Dieu, c'est le temps. C'est très, comment j'allais dire, profond comme message, parce que le temps passe et en Afrique, il semblerait que le temps se soit arrêté. Le temps se soit arrêté parce que les pratiques, le temps passe, mais les pratiques ne changent pas. Et pourtant, si le temps nous a appris une chose, c'est que on pouvait s'attendre au changement. Bon, le Cameroun, vous l'avez appris, hein, nage en plein psychodrame en ce moment. Depuis que le secrétaire général de la CAF, je sais pas si c'est CAF ou quoi, mais c'est la Fédération africaine de football qui organise la Coupe d'Afrique, Monsieur Ahmad, le malgache, a émis des réserves sur la tenue de cette coupe, enfin, je ne sais pas si c'est la coupe, le championnat, enfin, la coupe d'Afrique des Nations, la CAN, au Cameroun. Alors, cela a donné lieu, vous voyez un peu, hein, la post-campagne présidentielle qui s'était déjà passée dans des conditions horribles a repris voilà du poil de la bête en se disant mais voilà vous avez dit le président en place n'est pas compétent, il peut même pas nous ramener une coupe d'Afrique des Nations, rendez-vous compte. Son prédécesseur Aïdjo en avait ramené une, c'était dans les années 1900, ça c'était 70, vous vous rendez compte, en 72, et je sais plus si le Cameroun l'avait gagné, mais le stade Amadou Ahidjo trône depuis en plein quartier qu'on appelle Omnisport. Bon, et au fil, comment on va dire, de fil en aiguille, les langues se délient, mais pourquoi donc ce retard dans la construction des infrastructures et des routes qui y mènent vers les stades, et des routes même en général, on ne peut pas, avec les transports, l'offre de transport, on ne voit pas très bien, les routes, on ne voit pas très bien, les stades, ça progresse au rythme de l'escargot, vous savez, c'est l'escargot qui est l'emblème du Cameroun, ce n'est pas un hasard. Alors, allant sur l'escargot, s'arrêtant, faisant comme un arrêt sur image, hein, comme au cinéma, sur l'escargot, qu'est-ce qu'on a vu? On voit que, on entend qu'en fait, depuis 2004, 2004 ou 2014, bon, je crois que c'est 2014, parce qu'on est en 2018 quand même, qu'on a attribué cette coupe-là au Cameroun, l'organisation. Dans un premier temps, c'est le cabinet du Premier ministre qui coordonnait tous les ministres chargés donc de faire passer l'appel d'offres. Ils ont sélectionné un certain nombre d'entreprises, mais comme vous savez, en Afrique et d'ailleurs partout ailleurs, c'est le copinage, le business des marchés publics. Bonjour la mairie de Paris. Et ils ont envoyé la liste à la présidence. Et bah, à la présidence, ça leur a pris un an déjà, pareil, cabinet du Premier ministre. À la présidence, non, on n'est pas d'accord. Pourquoi les choix ont été faits sans nous consulter? Ils ont recommencé, ils ont remis leurs amis, parce que c'est quand même ceux qui commandent, pas le président, bien sûr, l'entourage, le cabinet. Ils ont refait voilà, le truc pendant un an encore, de 2000. 14 qu'on attribue la CAN jusqu'en 2016, 2017, pratiquement rien n'est fait. 2016, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on va faire? Il se dit qu'il y aura un nettoyage de ces grands voyous de la République. Ce n'est pas les premiers. Bon, ceci, peut-être, si c'est vrai, si l'histoire est vraie, mais en Afrique, il y a rarement de fumée sans feu. On nettoiera, on verra si le remaniement annoncé va aller dans ce sens et nous confirmer le fait que beaucoup de ces ministres ont vu leur droit de sortie du territoire retiré en attendant que la lumière soit faite sur cette affaire, car quand même, l'heure est grave. Alors, si on considère donc cette question de la personnalité qui va de plus en plus maintenant qu'on rentre là sur les 2 dernières semaines, ou plutôt dans les 2 dernières semaines, cette question de la personnalité va prendre de plus en plus d'importance. On connaît maintenant tous les candidats par leur nom, par leur physique. Un tel, c'est un tel. On peut mettre un nom sur les visages. Mais après, maintenant, il va se jouer quelque chose de plus immatériel, qui est la confiance qu'on dégage, qui est le charisme. Où on le trouve cela, comment on le reflète, comment on le renvoie. Et au jeu du charisme, c'est là où, voilà, sur le président sortant a toujours un avantage sur les autres, c'est évident. Et les 9 autres opposants, on verra celui qui va émerger avec un charisme fort. Mais moi, je vois très bien Monsieur Camteau, je continue à le dire. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas particulièrement. Je découvre, hein, je découvre, je l'ai vu, je l'ai entendu d'abord, et puis je l'ai vu. Ce qui émerge aussi de lui, c'est comme ça beaucoup de détermination et de volonté. Donc ça aussi, ça va jouer. Oui, ça fait un peu quelqu'un qui a un ego, mais comme il a dit, bah, si vous n'avez pas... Pour avoir envie de gagner, il faut qu'il y ait de l'ego. D'abord, tout projet suppose qu'il y ait un ego derrière, sinon vous n'y allez pas. Donc il est très déterminé, il a plus de volonté que tous les autres, il a plus d'envie de gagner que les autres, ça se voit, il est plus au combat. Et sa personnalité, compte tenu de son expérience antérieure, peut faire une grosse différence. Maintenant, question personnalité, je ne vais pas parler de tous les candidats parce que les autres, plus la course avance, plus l'écrêtage se fait, ou l'écrêtage, ou l'écrémage, je ne sais plus comment on dit, se fait tout seul. Il y a des candidats, il y a M. Hakeremona, un grand avocat international qui est là. Il y a monsieur aussi, ceux qui ont émergé fort. L'inconvénient, c'est ils ont quand même un name recognition qui est peut-être fort, mais les programmes, ils sont pas audibles. Voilà, ils sont pas audibles, ou alors ils sont moins audibles. Et ça, je sais pas pourquoi. Ah, peut-être que je ne suis pas le bon baromètre, mais je crois que si, quand même. Sinon, je ne parlerai pas ici. Et j'aime bien parfois fermer les yeux, être neutre et attendre que les sons m'arrivent. Et à ce moment-là, je me dis, ah tiens, tel candidat est audible. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont arrivés sur la scène, des acteurs. Vous savez, quand il y a un truc comme ça qui va se passer. Moi, je prends un peu cette élection. Franchement, ça m'était sorti de la tête. Et puis là, tac, je suis arrivé, j'ai trouvé. Oui, je prends comme ça sur le fil. Mais beaucoup se sont préparés pour qu'à ce moment-là, ils soient présents. Donc, vous avez beaucoup d'experts, de ci, de ça, de commentateurs qui passent, d'observateurs, de ci, qui ont créé des structures pour que le moment venu, ils soient présents pour faire les commentaires. Donc ça fait beaucoup, c'est la campagne aussi, il y a beaucoup de bruit autour des projets, des programmes des candidats, et que peut-être maintenant, j'espère qu'on aura moins d'intervenants, enfin, on aura plus quand même, comment dire ça, on aura une parole plus concentrée sur le candidat. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Bien sûr, il y a les lieutenants plus concentrés sur le programme aussi. Mais le programme, j'ai envie de dire, quand on a écouté un peu tout le monde, même y compris ceux qui sont dans les quartiers, quand vous écoutez les gens, ils savent très bien ce qu'ils veulent, hein. Après, la science politique consiste à mettre tout cela en réseau et en rapport. Et là-dessus, on a un hiatus qui est apparu entre ce que le peuple veut pour de vrai. Moi, j'ai la chance d'habiter un quartier populaire et donc j'entends des choses, je vois des choses, je vois comment les gens vivent. Il y a un décalage entre, par exemple, ce que le président de la République viendra faire valoir comme bilan en termes de grands projets qui sont réels, de grandes réalisations prévisionnelles, l'émergence 2030-2035. Oui, mais les gens ne sont pas tellement dans cette projection-là. Ils sont dans l'ici et maintenant. Ils sont dans la vie très, très, très difficile dans les quartiers. Et quand vous parlez des grands projets, oui. C'est bien, mais je crois que, je sais pas, il y aura quelque chose à voir là au niveau de la participation, de la non-participation, au niveau des résultats, ce décalage entre le vote populaire, quand je dis populaire, des gens qui souffrent ici, et, enfin qui souffrent vraiment sur le terrain, je ne vais pas énumérer ici la liste des difficultés, et ceux qui voient grands projets, grandes routes et tout, qui sont plus ou moins déjà bien dans leur vie. Donc c'est quelque chose qui va aussi traverser la campagne et le discours. Comment est-ce qu'on va rallier cela? Est-ce qu'on va se focaliser sur un tel segment de la population pour lui parler? Je ne sais pas. C'est peut-être à cela qu'a servi les déplacements sur le terrain, parler de la réalité, mais ça suffira pas parce que à la fin, c'est pour cela que je vous disais, c'est la question de la personnalité qui va décider à la fin, parce que tout le monde a le programme, tout le monde a les solutions, chacun les siennes, mais ceux qui tiennent la route. Et après, qu'est-ce qui va faire la différence? Ça sera la personnalité, la crédibilité. Et peut-être quelqu'un a essayé de parler de l'ancienneté dans la vie politique. Oui, en temps normal, ben non, parce que là maintenant, les gens sont plus ou moins désespérés. Ils sont même prêts à se jeter comme ça, corps et âme. Enfin, ils sont fâchés. Le peuple est fâché, le peuple est très en colère. Il se dit, oui, au bout de 36 ans, le compte n'est pas bon. Se poursuit, là c'était une pause, et bon, on va chuter, comme on dit, on va chuter, on va terminer, on va dire Face donc à toute cette situation-là où on attend le nouveau gouvernement d'après-élection qui correspond avec la crise du refus, enfin de la suspension de la décision d'accorder la CAN au Cameroun, parce qu'il y en a qui y croient toujours, puisque apparemment il semblerait que d'après les écrits, le pacte, le contrat, c'est en mars qu'on devait prendre la décision, mais quand même. Prendre une décision en mars de non pour une coupe qui se tient en juin, vous voyez très bien que ça ne peut pas marcher. Bon, du coup, le Maroc va tirer la couverture vers elle. Ça va être, comment dirais-je, la France qui organisera la CAN derrière le masque du Maroc. Vous savez, le Maroc, hein, ils ont évité le printemps arabe grâce à la France. Donc le Maroc est un territoire totalement recolonisé par la France. Il est sous tutelle. C'est une sorte de base arrière de la France, une région française maintenant, un peu comme l'Algérie était. La France va donc organiser cette... Cannes, après avoir organisé la Coupe du Monde, c'est de bonne guerre, et pourquoi pas, après tout, hein, la France, l'équipe de France, vous voyez bien, c'est des Africains qui jouent. Donc tout est cohérent et tout se tient. C'est pas la peine de se cacher, il faut juste avancer sans masque. Alors, comment les Camerounais, après, à côté de cela, bon, il faut bien que la vie continue. On réagit ici. Il y a des. C'est pour cela que j'ai bien aimé l'analyse de Monsieur Ernest Pourret. Doit être un docteur, évidemment, pour enseigner à Lyrique, qui met le facteur, qui installe le facteur psychologique au cœur de ce drame du football, mais qui déborde le football, parce que vous savez que maintenant, le football est politique. Et là, dans cette psychologie, on a ici trois types de réponses. On a déjà les gens qui demandent la souveraineté, qui l'exigent, ça a commencé au niveau de la campagne, la souveraineté. Et la responsabilité de la gouvernance, ça va ensemble. Et là-dessus, on demande de quitter la zone franc CFA, qui est alors la forme coloniale la plus achevée, qui fait que l'Afrique transfère 4 000 milliards d'euros à la France tous les ans, et par un mécanisme très compliqué, parce qu'en fait, c'est la France qui gère ce franc CFA, et comme elle tient l'économie de ses... les finances... De la monnaie, voilà, de ces pays, on ne voit pas comment ils peuvent être indépendants, et c'est une revendication que Kadhafi avait prise à cœur et pour laquelle il a été tué parce qu'il demandait tout simplement la fin de ce franc CFA et l'installation d'un dinar africain soutenu par lui et garanti par l'or libyen. Forcément, vous voyez, la France allait s'appauvrir parce qu'on travaille plus en France, on vit sur l'Afrique. Hein, vous vous rendez compte, moi, j'ai été expulsé, vous savez, de la France, de mon logement, comme un non-expulsé ici, hein, le fils naturel de Paul Biya, pour faire un peu un pied de nez, parce qu'on a exploité une loi qui datait d'un an, j'ai pas été vigilante. Ils sont arrivés, vous savez, toujours en traître dans le dos, amenés par l'Élysée, l'occupant de l'Élysée, dont on a su plus tard qu'il avait un amant. Arabe et marocain, bah oui, comme par hasard. Et moi, à ce moment-là, excusez-moi, je m'excuse même pas, j'en parle, parce que ces gens-là, quand ils veulent vous attaquer, ils utilisent votre vie privée et ils se présentent publiquement autrement comme des anges, alors que c'est des démons et des pauvres types. Et en attendant, entre-temps, moi, j'avais un boyfriend tunisien, vous voyez un peu, donc vous pouvez, comme on dit en anglais, connect the dot. Ici, je suis étonné, et ça va être la deuxième réponse que les Africains apportent, c'est qu'il y a une recherche forte d'identité. On veut retrouver notre identité pour se relancer parce qu'on a compris que ce n'est pas à travers les coopérations prédatrices qu'on va y arriver. Il se présente maintenant, vous savez, la nouvelle forme hein, de maquillage, de la coopération, c'est l'aide, les aides européennes, l'Europe dont on voit qu'elle a saqué et appauvrit tous les peuples européens en enrichissant une caste d'inutiles. Vous avez vu des reportages, le luxe qu'il y a au Parlement, c'est une honte. Les salaires, c'est une honte. Et puis les 600, il y a un livre qui va sortir qui s'appelle aussi Les Intouchables, parce qu'il faut bien se répéter et faire comme si on était le premier qui trouvait. Il y a 600 fonctionnaires en France, ou fonctionnaires planqués, qui gagnent plus que le président de la République. Alors allez savoir, c'est la honte. Parce que même le blanc aujourd'hui est dédoublé. Derrière le blanc, il y a la secte franc-maçonnique qui est un État monde et qui commande à tous les autres États, y compris voilà, il y a la recherche. Le combat identitaire, c'est le combat de demain, c'est le combat d'aujourd'hui. Et ça ne fait que commencer parce qu'il a lieu en France, mais il a lieu aussi ici. Qu'est-ce que je voulais ajouter là, ce niveau de la prédation des gens planqués? C'est que, vous voyez, les gens, ils montent un scénario pour vous expulser. Vous venez en Afrique, et quand vous écrivez sur Mongo Betty, oh, ils découvrent que Mongo Betty existe. Quelqu'un a même écrit sur les origines de la France-Afrique, oh mon Dieu, on vient brouter sur mon herbe, là où je suis. Vous voyez un peu le gars, c'est le gars qui crée le malheur, et puis il court derrière, il vient récupérer ce que vous faites, il vient brouter sur votre terre. Comment vous qualifiez ça? Alors quand j'étais en France, aucune télé n'a jamais voulu me... D'abord, ils ont dit que j'étais une inconnue. Ah ben oui, il faut dire inconnu, parce que quand on a décrété qu'on est le peuple élu, il faut être premier en tout, excellent partout. Et s'il y a plus, qu'il y a quelqu'un qui vous déborde, vous le tuez, vous le niez, mais entre-temps, vous allez tout voler précieusement, vous ramener. Et s'il parle trop, vous faites comme on a fait à l'Élysée, vous passez dans le dos, vous envoyez un gang marocain. Vous savez, quand j'étais à Villefontaine, m'agressaient, mais c'est tout juste, ils m'ont pas rendu sourde, de vraies ordures. Quand l'Élysée peut soutenir via son amant des gangs de banlieue, c'est absolument incroyable, parce que dans les Intouchables, c'est pas que les boss là-haut, c'est aussi la racaille dans les quartiers, c'est les mêmes. Donc le combat identitaire ici s'exprime fortement. Je vais vous dire, quand vous voyez la France-Afrique, tout ça s'est accéléré. Je suis arrivé ici, ben oui, les Intouchables, j'ai sorti mon livre où je parle des rentiers, l'économie de la rente, la confiscation des territoires, ben oui, j'ai parlé de Oumiobé, oui, on redécouvre l'indépendance, ben oui, mais on va en territoire Bamliki alors que le père fondateur c'est Oumiobé, qui est Bassa comme moi, ben on n'ose pas venir, évidemment, ça va, c'est trop gros, toujours derrière, à sucer le travail des autres. Ces gens-là, ils produisent rien. Ils volent tout. Comment voulez-vous être gouverné par des gens pareils? Il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas de développement durable. C'est nul tout cela. Donc il faut revenir. Le combat identitaire, c'est le combat pour la souveraineté. Et le combat pour la souveraineté, c'est le combat pour la méritocratie et l'excellence. C'est le combat pour le progrès. C'est le combat pour le développement. Il n'y aura pas de développement tant que c'est l'étranger qui vous gouverne. Il n'y aura pas de développement parce que l'étranger est de passage. C'est tout. Il n'est pas chez lui. Et on a beau dire sans frontières, c'est n'importe quoi. On a un débat ici où moi j'ai des élites chez moi qui ont dit, ah, ça opposait le sous-préfet à l'élite. Et puis les élites disaient, oui, mais le sous-préfet, il critique tout. Il critique les élites, qu'est-ce que l'État fait? Ah, ben, les gens ont répondu, mais le sous-préfet est de passage. Vous, c'est chez vous. Donc faites le job, ne regardez pas le sous-préfet. Ça veut dire que ben, il y a des choses que l'étranger fera jamais pour vous. Faut pas rêver. Il faut revenir à son identité. Et là-dessus, moi, je participe à une émission, une télévision qui porte vraiment un nom, j'allais dire, c'est une aubaine, Horizon TV. Je suis arrivé là parce que je suis allé me présenter, enfin, je suis allé découvrir l'université Cheikh Anta Diop, qui est ici localement. J'ai dit, ah ben, Cheikh Anta Diop, ça me dit quelque chose, l'égyptologie, j'y vais. Et quand j'arrive, divine surprise, je trouve qu'il y a une radio. Et puis, ils collaborent à cette petite télévision qui n'est que câblée pour le moment, Horizon TV, qui n'a qu'une audience très limitée, c'est Yaoundé. Alors, on a commencé à parler d'égyptologie. L'égyptologie, c'est quoi? C'est que les Africains, dont l'histoire a été amputée, évidemment, par... Pardon, je suis sur Radio Silence, mais là, il y a quand même des questions qu'on peut aussi poser, par la Bible qui a posé, dès le départ qu'au commencement... Voilà, était Dieu, ce qui est vrai. Mais après, quand on voit que le fils de Dieu, bah, c'était un juif, entre guillemets, parce que le mot est interdit. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, si le commencement, ça commence avec l'histoire des Juifs et d'Israël, du peuple israélite, on va dire comme ça, bah, que devient l'homme noir, premier homme de l'humanité? Ça contredit même toutes les thèses anthropologiques et toute, je ne vais pas dire la science. Dieu n'est pas aussi hors de la science, et la science aussi ne se fait pas hors de Dieu, toujours. Quoique. Et la technique, oui, mais pas la science. Et là, en cherchant, on se dit, c'est qu'il y a eu un effacement historique de la présence des Noirs, et cet effacement historique passe aussi par la manipulation qui a eu lieu en Égypte, où la civilisation pharaonique antique était noire, et les archéologues qui sont allés sur place ont blanchi les personnages et la civilisation, en sorte que... on ne retrouve plus la trace du noir dans l'histoire de l'humanité. Quand on veut refaire l'humanité, ben, il n'y a pas de noir. Donc quand on revient derrière, on se rend compte qu'il y a eu un effacement. Et qui a opéré cet effacement? On ne peut pas dire. Parce qu'après, il y a eu la Grèce, il y a eu Rome, Rome, et puis Rome, tout de suite, c'est arrivé avec les évangiles. Et depuis, la Bible s'est imposée comme le livre qui a effacé le noir. Et pire que cela, en venant ici, c'est le livre qui a apporté la colonisation, la civilisation, pardon, noire, alors qu'elle a apporté la colonisation. Donc, ce travail-là, on est en train de réfléchir là-dessus. Et puis, des experts, hein, en égyptologie ont découvert qu'en fait, dans la Bible, tous les récits, je dis bien tout, ont été une transposition, un transfert de tous les récits qui existaient déjà et des personnages dans l'Égypte ancienne, notamment la Trinité, Osiris, Isis, Horus. Donc Horus étant le dieu, Osiris étant le fils, voilà, et Isis la femme. Donc cette trinité, c'est pas n'est pas été découverte comme on découvre les origines de la France-Afrique, c'est quelque chose qui existait déjà. Et pour l'Afrique, les Africains, ça peut être important d'abord de comprendre comment l'histoire a été écrite jusqu'à présent, qu'elle était une grosse manipulation, même si derrière on reconnaît que la force de la Bible est d'avoir érigé les archétypes et la mythologie qui parle directement à l'âme humaine à un degré fort d'énonciation et de poésie. Qui fait que bah, la foi suit, mais bien sûr, mais pas parce que la foi est quelque chose d'inventé, parce qu'elle préexiste à l'homme. Bon, on réfléchit à ces choses-là, et bien ça intéresse tout le monde maintenant, toutes les télés sont. Vous avez les grandes télés là, qui sont grandes par la gueule et par l'imposture financière, et notamment, il y a une qui fait maintenant un truc des élites, quel machin club des élites. Le propriétaire de cette chaîne a ruiné la Camposte, qui était chargée de l'épargne des petits Africains, les pauvres Africains. Le mec, il a fait une petite prison là, vite fait, il est sorti là, avec tous les milliards qu'il a volés aux épargnants, qui étaient déjà, vous savez, comme quand il y a eu la crise bancaire, là, en 1929, financière, je ne sais plus financière comment on l'appelait, où on vous donnait, si vous avez gardé 1 million, vous venez tous les jours, vous avez droit à 15 000 francs, par exemple. Donc le mec, il est là, il a fait une chaîne télé, il est sorti de prison, il parade, apparemment c'est le premier milliardaire africain, enfin du Cameroun en ce moment. Il fait un club des élites, tout va bien, le gain est touchable, des gens ont été ruinés, mais vous pouvez toujours continuer à faire le business as usual. Et puis ce mois-ci, paraît qu'il a remboursé la dernière tranche de ce qu'il avait volé. Mais vous vous rendez compte, c'est un fait. Psychologisme toujours. Oh, l'émission est longue aujourd'hui, mais ça valait vraiment la peine, comme ça vous aurez. Tout serait tout du Cameroun serait incroyable, mais c'est pas que le Cameroun, ces choses-là. Quand on parle du Cameroun, en fait, aujourd'hui on parle du monde. C'est pour ça que j'avais dit Radio Silence, maintenant c'est Radio Monde. Effectivement, chacun cherche à se réapproprier le concept. C'est toujours les mêmes, ils étaient trop grands, mais ils viennent voler chez les petits. Alors ici, on a ce schisme, compte tenu donc de tout ce que je vous ai dit, le modèle d'enrichissement illicite toujours, le modèle de réussite carrément illégal et inacceptable, je vais dire limite du dégoût, des voyous qui viennent faire des télévisions, qui ont ruiné des gens, qui ont pignon sur rue, qu'on classe comme étant des hommes d'affaires à succès, mais c'est très facile. Bon. Enfin, c'est des gars qui doivent être en prison à vie, c'est pas possible, et puis rembourse le fric. Ou alors interdit de faire ce genre de business sur la médiation, parce qu'on sait très bien aussi qu'en France, ça, je ne vous apprends rien. Tous les médias sont tenus par les gangsters. Voilà. La famille qui appartient aux gangsters et qui sont vraiment très, très connectés à l'état franc-maçonnique planqué, l'état dans l'état. Ici, donc, ça donne quoi? Ça donne qu'entre les pauvres et les riches, il y a un mépris réciproque. Mépris réciproque. Moi, j'ai pris un taxi hier, anecdotique. Bon, dans le taxi. Et d'habitude, je prends des courses. Bon, il était 22 h passées. Ouf, parfois, je dis, ah, je vais monter là. Bon, et puis voilà. Comme ça aussi, je me frotte au peuple et puis j'entends beaucoup de choses. Ouh là là, je trouve un qui était saoul, là. Il me prend tout de suite. Poussez-vous un tout petit peu. Ah non, vous êtes trop grosse. Ah, ben oui, j'ai maigri brutalement. Là, j'ai fait une fièvre qui s'est compliquée ici par une fièvre typhoïde. Je vous souhaite pas ça. Ça a duré 4 semaines, mais je ne me suis même pas encore totalement remise. J'ai fondu comme ça. C'est horrible, cette fièvre typhoïde. Et il paraît que c'est très long à passer. Ça vous laisse une fatigue. C'est pas évident du tout. Depuis, j'ai pas vraiment toutes mes marques physiques, physiologiques. Mais ça va, ça va. Alors, il me sort que je suis trop grosse. Et c'est pour ça qu'on ne suffit pas. Ben oui, je dis, ben oui, ben oui. Puis celle qui était entre nous deux lui a dit, poussez-vous, poussez-vous, c'était une jeunette. Oh là là. Et ben, j'ai dit, ah oui, mais je suis trop grosse, c'est très bien, poussez-vous. Il me regarde, il me dit, ah ben vous faites l'onjansan. L'onjansan, c'est une petite épice ici qui éclaire, dont vous vous maquillez, vous vous éclaircissez la peau. Ah voilà. J'ai dit, ah ben oui, j'attendais celle-ci parce que vous, les hommes noirs, corrompu déjà, incapable de gérer votre pays qui est sale comme tout, qui ressemble à rien, et tout ce qui vous intéresse, c'est la peau des femmes. Ah, il me dit oui, mais c'est aussi ton pays. J'ai dit bah oui, c'est aussi mon pays, mais sauf que moi je serais présent, je traînais en France, vous étiez là. Tout ce que vous savez, c'est parler des femmes, et je m'éclaircis la peau. Et alors, je suis votre femme, je suis votre sœur, je suis quoi pour vous? Je suis pas le membre de votre famille, donc ça vous regarde pas ce que je fais. Arrêtez de vous occuper des autres, parce que ça, c'est aussi une mentalité que les médias gèrent, les fake news par les espions. Là, d'abord, au passage, je vous signale que les médias ici, France 24, ils soutenaient Camteau, le monsieur de l'opposition, et ils sont ici, ils ont remplacé les ONG. Tous ces médias sont ici en espions. Bon, jeune Afrique, tout ça, pareil. Donc, encore des déguisements et des clones, et on appelle ça une mutation du démon franc-maçonnique. Et alors après, il me dit, oh, c'est pas la peine que je parle à ma façon française, là, je l'impressionne pas. Son frère est aux États-Unis, j'ai dit, oula, c'est bon, j'étais aux États-Unis, ça c'est pas une référence, oui. Et puis mon frère, quand il vient ici, et il fait pas comme vous, il prend des courses en taxi, et puis même, il paye le taxi à tout le monde. Bon, hein, c'est contradictoire, si on paye le taxi à tout le monde, c'est qu'on était déjà avec des gens dedans, on n'était pas en course. Quand on est en course, on est tout seul. Mon frère, blablabla. Et après, il me dit, oui, oh, de toute façon, moi je peux vous payer un verre, hein. Si vous voulez, je vous paye un verre. Ah, ben, j'ai dit, bah, attendez, vous ne respectez pas les femmes, vous voulez me payer un verre? Ben non, ça ne marche pas, je n'ai pas besoin. Non, oui, c'est. J'oublie même la discussion parce qu'on allait un peu plus ou moins. Ouais. Et après, il me dit, bon, de toute façon, vous faites quoi ici? Vous devrez avoir votre voiture à vous, sinon vous ne seriez pas ici, ça veut dire que vous êtes pauvre. J'ai dit, bah, merci, je suis pauvre. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. J'ai dit, bah ouais, je comprends. Avant, c'est vous qui empêchiez les gens bien de prendre le taxi. Parce qu'avant, les gens bien prenaient le taxi. Les gens riches et les gens pauvres avaient l'occasion de se côtoyer. Maintenant, vous êtes devenus tellement impolis et arrogants que, bah voilà, c'est normal que les riches vous fuient. Oui, qu'est-ce qu'il me raconte encore? Bon, de toute façon, vous, des filles comme vous, c'est facile, hein? Moi, je paye, j'ai l'argent et tout, bon, bref. De fil en aiguille, il était bourré un peu, de fil en aiguille. Il descend, et quand il descend, il me dit, il faut vous renseigner, je m'appelle, je sais plus, il m'a dit, Guy, quoi, là? Il habite Emana, il est le plus grand gigolo de Paris. Ah, quelle présentation, j'ai dit, oh mon Dieu, je l'ai échappé belle. Voilà. Donc, on a des hommes noirs perdus. Je ne vous dis pas comment ils jouent les taupes ici, payés à me suivre, à terroriser les gens. C'est tout un univers. Vous savez, la colonisation, quand elle arrive avec ses travers. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin de se prouver quelque chose. Ils sont prêts à tout aussi, comme les intouchables. Donc, c'est le même esprit de corruption, de prostitution, de l'âme qui s'est installé des deux côtés. Donc, il ne faut plus aujourd'hui combattre pour les pauvres, mais il faut juste combattre pour la justice. Parce que les pauvres aujourd'hui, je vous assure, ce sont de vrais cyniques. Voilà, le portrait, ben ça vous étonne pas, hein, ça vous étonne pas. Je voulais juste dire que, au bout du compte, on va dire que c'est du chaos que naît la vie, et c'est des ténèbres que naît la lumière. Amis de Radio Silence, c'était Flash sur le monde par Élise Mbok depuis Yaoundé. Je vous dis à bientôt et je vous aime. Donc à Horizon TV, ils ont toujours cette façon de convoquer les ancêtres par une prière, un moment de silence. Donc ça tombe bien, faisons silence.